Bonjour à tous et bienvenue sur Bac FM 106.1 dans l'émission À quoi qu'on joue, votre mission mensuelle sur le jeu et sur l'actualité ludique dans la région de Nevers. Je suis Daoud du Conservatoire du Jeu et comme à l'accoutumée, je vous présente cette émission. Comme chaque mois, je reçois un ou une invitée, et pour ce mois-ci, ce sera une invitée, car nous serons en compagnie de Lise Bouilleux, une passionnée de jeux vidéo, une fidèle du Conservatoire du Jeu, et surtout une spécialiste locale du MMORPG qui va venir nous parler un petit peu de tout ça. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour Lise, et bienvenue à Quoi qu'on joue.
Bonjour Daoud.
Comment tu vas ?
Ça va bien, merci.
Alors, Lise, est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs, nous dire un petit peu qui tu es ?
Alors, je suis Lise et je suis une grande joueuse, donc je pratique un peu le jeu sur tout et n'importe quoi, mais j'ai un point faible depuis toujours sur le jeu vidéo.
Voilà. Quel point faible !
Incroyable, oui. Oui, je joue depuis aussi longtemps que je me souvienne, puisqu'on a toujours eu un ordinateur, une console à la maison, donc... Avec le temps, les jeux ont varié, je joue un peu de tout, enfin voilà, c'est...
D'accord. Alors, tu dis tu joues un petit peu de tout, tu sais, tous les mois, je pose à chacun de mes invités la même question en leur disant, tu sais, notre émission, elle s'appelle À quoi qu'on joue, alors toi, tu joues à quoi ? Alors toi, c'est jeux vidéo, mais pas que.
Non, mais pas que, je fais aussi du jeu de plateau, du jeu de rôle, plein de choses,
tout,
quoi. Ouais,
tout ce qui se rapporte un petit peu au jeu,
voilà,
un peu comme nous tous. Là.
Voilà, c'est ça. Passion pour le ludique de façon générale.
Alors, d'ailleurs, est-ce que tu as un jeu du moment, au-delà de celui que tu es venu nous parler aujourd'hui, et on vous le dévoile tout de suite après, mais est-ce que tu as un jeu du moment à nous conseiller sur une console ou sur PC ou...
C'est une très bonne question. À quoi j'ai joué récemment ? Parce que le problème des MMORPG, c'est qu'on finit par ne plus jouer qu'à ça. Et c'est un peu compliqué.
Alors, je sais pas, moi, il me semble que la dernière fois qu'on s'est vu, t'étais sur Switch, tu m'avais dit.
Oui, mais alors là, je reviens d'une grosse session où j'ai poncé, évidemment, Animal Crossing, qui était sorti l'année dernière pendant le premier confinement. Donc, du coup.
Il est sorti au bon moment, celui-là.
Il était sorti pile poil au bon moment. Où on se retrouvait en ligne pour aller arroser les fleurs et les jardins des autres. Enfin, c'était des moments passionnants de gameplay.
Tu sais, j'ai honte, je l'ai toujours pas essayé.
Oui, non, mais c'est... Puis en plus, c'est vraiment un jeu qui est pas forcément qui va plaire à tout le monde, puisque c'est. Il n'y a pas vraiment d'objectif, on arrose des fleurs avec des gens.
Enfin, voilà, ça n'empêche pas, si tu l'as pensé, c'est qu'il doit y avoir pas mal de choses à faire quand
j'ai
même.
J'ai toujours adoré la licence, donc du coup forcément j'avais
essayé celui sur Wii qui était sorti donc il y a je ne sais pas combien de temps, 10 ou 15 ans, qui était fourni avec le micro et tu donnais des consignes, des ordres mots-clés au micro. Et elle s'effectuait dans le jeu.
Oui, il y a eu une mode comme ça sur la Wii, on pouvait donner des ordres en vocal, mais c'est un peu passé de mode.
Ouais, c'est un peu passé de mode parce que les premiers jeux qu'on avait vus comme ça sur console, enfin moi que je me souvienne, c'était sur PlayStation 2 avec SOCOM, où c'était des espèces de jeux militaires d'infiltration où on avait deux escouades, le groupe alpha, le groupe bêta, et on avait un micro casque et on disait à la console via le micro groupe alpha embuscade, et on voyait les personnages se positionner prêts à attaquer les autres. C'était vachement sympa. C'était à ce moment-là, c'était évidemment un peu révolutionnaire parce que c'était les premiers jeux à commande vocale, mais c'était marrant quand même. Enfin voilà.
Oui, il me semble qu'il y avait eu la même chose avec sur Nintendogs où on pouvait donner des ordres à son chien, je crois, un truc comme ça. Mais ça,
avec l'arrivée de la DS, il y a eu beaucoup plus d'interactions, qu'elles soient vocales ou souffler sur la console ou des choses comme ça qu'on voyait pas avant du tout, même avec la Wii où on pouvait agiter les manettes. Oui, il a fallu souffler dessus. Bien que si tu remontes sur l'histoire des jeux vidéo, sur la première NES au Japon qui s'appelait donc la Famicom, il y avait un jeu, le joueur du grenier en avait parlé, c'était Takagi Challenge, je crois.
Ouais.
Il fallait souffler sur la manette pour qu'il se passe quelque chose parce qu'il y avait des capteurs, il y avait des micros en fait déjà dans les vieilles manettes, il y avait des capteurs et ça devait reconnaître le souffle. Et alors je sais plus à quoi ça servait, peut-être à déplacer un bateau pour faire comme le vent ou quelque chose comme ça, mais c'était déjà vachement original et c'était déjà Nintendo du coup, pour le coup.
Ouais, Nintendo aime bien expérimenter des trucs, donc ça...
Alors voilà, maintenant qu'on a évoqué des vieux souvenirs, de vieux jeux que... Lise, tu es venue aujourd'hui donc pour nous parler MMORPG, mais avant que tu nous parles d'un jeu ou de quelques pratiques un petit peu plus en particulier, j'aimerais que tu nous définisses un petit peu, que tu nous dises qu'est-ce que c'est que le MMORPG.
Alors, le MMORPG, donc c'est l'acronyme en anglais, je vais vous éviter la prononciation en anglais qui est absolument atroce, vu mon accent. Mais en français, c'est jeu de rôle en ligne massivement multijoueur.
Oui.
Donc, le principe étant qu'on n'est pas 1, 2, 3, 4 à jouer en même temps, on est des milliers, voire des millions.
D'accord.
À jouer en ligne sur un monde qui, du coup, va être persistant, c'est-à-dire que le monde existe, que je sois là ou pas.
Mmh.
Parce qu'il y a des tas de choses qui s'y passent, il y a d'autres joueurs qui y vont, il a son existence propre en fait. Enfin, faut voir ça comme un espèce de petit monde parallèle en ligne. En
oui, fait. C'est ça, l'univers du jeu continuera à suivre son fil, voilà. Qu'on y soit connecté ou pas.
C'est ça. Donc, avec, y en a plein de différents. C'est un concept qui est assez, vieux, entre guillemets, dans le monde du jeu vidéo.
L'exemple de jeu le plus connu qu'on pourrait donner pour un MMORPG.
De toute façon, c'est celui dont je vais vous parler maintenant.
Oui,
hein.
c'est
World of Warcraft. Mais il en existe plein. Hein. Enfin, il y a eu Guild Wars 2 qui avait pas mal cartonné à son époque. Il y a eu un jeu qui avait eu un peu de succès à l'époque sur Star Wars. The Old Republic.
Ah, The Old Republic. Mais voilà. Oui, mais tout à fait, voilà. Effectivement. Alors, on a préparé l'émission avec Lise avant, on a discuté un peu de tout ça. Alors, moi, je ne pratique pas les mémoires RPG parce que j'ai peur d'y passer trop de temps. Et donc, j'ai jamais trop voulu jouer en ligne. Mais du coup, je me suis aperçu que je confondais mémoires RPG avec d'autres types de jeux. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à parler de RPG tout court ou de MOBA. Ouais. Alors, pour nos auditeurs, comment on peut les aider à différencier un MMO d'un autre type de jeu en ligne ?
Ben parce que la plupart des autres jeux dont tu me parlais, par exemple, tu me disais League of Legends ou Overwatch, ce sont des instances, c'est-à-dire qu'on se connecte, on lance une partie, on joue sa partie, on finit sa partie, point. Dans une carte.
Et il se passe rien d'autre dans l'univers du jeu quand toi tu n'es pas en train de jouer.
C'est ça. Et c'est sous forme de cartes ou d'arènes ou de choses comme ça dans lequel je vais être contre des ordinateurs ou contre d'autres joueurs. On joue la partie, on gagne, on perd, on fait une égalité, point, le monde s'arrête.
À la manière de Fortnite ou de.
Voilà, exactement. Voilà, c'est ça.
Oui, parce que je t'avais cité des exemples à la manière de The Forest ou des choses comme ça, où, même s'il n'y a pas d'affrontement ou de choses comme ça, que c'est bien un jeu où on fait un travail coopératif en équipe, il se passe rien d'autre si, dès lors qu'il n'y a pas au moins un membre de l'équipe de connecté, il ne se passe rien sur la map, dans le jeu ou quoi que ce soit.
Surtout qu'il n'y a pas cet aspect aussi massivement multijoueur, quoi.
Effectivement, c'est moins massivement. Voilà. Bien que des jeux comme Fortnite, c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait un amalgame, en fait, parce que, tu vois, je vais reprendre l'exemple de Fortnite, parce qu'on en a beaucoup parlé, on en parle encore beaucoup. Il y a des millions de joueurs, a priori, à travers le monde, qui sont forcément connectés en même temps, mais qui jouent pas tous ensemble, effectivement. Et ils sont par lot. Alors, j'y ai joué qu'une fois ou deux, moi, Fortnite, encore une fois, mais je crois qu'on est par 20, 25 ou 30 en même temps sur la même map. Enfin, le nombre est effectivement limité, et une fois l'instance finie, on en reprend une autre.
Elle se ferme, et on en rouvre une autre derrière, etc. Enfin, c'est vraiment ce principe d'un monde qui existe, en fait, en dehors de nous, quoi. Enfin,
ouais, bien sûr. Oui. Et qui continue de progresser. World of Warcraft, tu sais depuis combien de temps c'est sorti ?
Alors, il est sorti en 2004 aux États-Unis, en 2005 en Europe.
Ouais, donc ça fait déjà 16-17 ans qu'on a un univers qui continue de se développer.
Qui existe et qui évolue, en fait.
Ouais.
L'univers tel qu'on l'a connu en 2005 n'est plus du tout le même aujourd'hui en 2021 parce que il y a un aspect très narratif aussi sur WoW qui, du coup, fait évoluer le monde.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il va se passer des événements, il va y avoir des guerres, il va y avoir des catastrophes. Donc, du coup, la carte du jeu même va être modifiée en fonction de ces événements-là.
D'accord. Quand tu dis la carte du jeu, tu penses vraiment à l'univers
Ouais, physique. Enfin, les décors, les villes, les plaines, les vallées, les océans. Tout ça peut être modifié en fonction du développement et des extensions qui vont être apportées après. Quoi.
D'accord. Alors, basiquement, World of Warcraft, imagine, tu es un tout petit enfant, il faut m'initier, comment ça marche ?
Un tout petit enfant, ça va être compliqué. Alors, c'est un jeu qui est développé par Blizzard,
oui.
Blizzard Activision aujourd'hui, qui est basé sur l'univers de Warcraft, en fait, à la base, si on remonte plus loin, de Warcraft 3 en particulier.
Donc Warcraft, à l'origine, qui était des jeux, on va dire, de gestion. Enfin,
c'était des jeux de gestion.
Où on gérait une armée entière et on affrontait une autre armée. Alors, il y avait des choses à faire comme construire son camp, remplir des missions, remplir des objectifs. Bref, c'était un vrai jeu de gestion à la manière de Command & Conquer ou d'autres titres de ce type-là. Et ça s'appelait effectivement Warcraft, tout court. Et moi, j'ai joué à ça, par contre.
Voilà. Donc, tu vois, il y avait un mode scénario sur Warcraft 3 en particulier. Et en fait, ils se sont basés sur cet univers-là pour développer ensuite l'univers de World of Warcraft.
Oui, d'accord.
Donc, on a des personnages qui étaient présents dans Warcraft 3 qui sont toujours présents dans World of Warcraft aujourd'hui.
Oui, les leaders d'armée, j'imagine, ce genre de personnages.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est une vieille histoire, en fait, pour Blizzard, quoi. Enfin, ils continuent à raconter une histoire qu'ils ont commencée il y a très, très longtemps, quoi.
C'est vrai que d'un certain point de vue, c'est formidable de se dire qu'il y a une histoire ludique, hein, qu'il y a un univers persistant comme ça. Oui, du coup, le mot persistant prend tout son sens quand on en parle. Qu'il y a un univers qui reste comme ça et surtout qui soit évolutif et qui se développe. Mmh. Alors, très basiquement, donc, comment ça marche, WoW, si moi, demain, j'ai envie de jouer à World of Warcraft? Comment je fais? À part me connecter sur un serveur, bien évidemment, et d'avoir installé le jeu à l'avance, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir jouer à Warcraft au début?
Alors, la première étape, de toute façon, ça va être de créer un personnage.
Bien évidemment.
Voilà. Et c'est là où déjà, il y a des choix qui doivent être faits, parce que, bon, déjà, basiquement, il faut choisir sa classe de personnage, parce que chaque classe ne peut pas faire, évidemment, les mêmes choses, sinon c'est pas rigolo.
Oui.
Donc, si on veut plutôt faire des dégâts et tuer des ennemis, ou plutôt si on est là pour supporter son équipe, la soigner et la protéger, etc. Ou, donc encore une fois, c'était des choses qu'on avait vues la dernière fois, tanker, donc c'est-à-dire prendre les dégâts à la place de ses camarades pour leur permettre de survivre. Et toutes les classes ne sont pas capables de faire ce genre de choses. Par exemple, un mage, il ne va pas aller tanker avec sa robe et son bâton. Voilà, de base. La deuxième chose à choisir, ça va être sa race. La race de son personnage, parce qu'il y a une foultitude de races à choisir. Et c'est là où ça se corse, parce qu'en fait, le joueur va devoir choisir entre deux factions.
Oui.
Qui sont réparties dans les races sont réparties dans les deux factions. Donc on a la Horde et l'Alliance. Et ces deux factions ne peuvent pas jouer ensemble.
Bien sûr.
Mettons par exemple, si toi tu décides de te créer un compte et de venir jouer avec moi, il faudra que tu me demandes avant.
Oui, si tu es Horde ou Alliance.
Si je suis Horde ou Alliance, parce que sinon. On ne pourra pas jouer ensemble.
Alors, tu es quoi?
Alors, toi, tu peux pas. Mais,
oui, d'accord.
J'ai sorti mon plus beau t-shirt de l'Alliance aujourd'hui. Même si c'est à l'heure actuelle pas la faction qui a le plus la cote, contrairement à il y a quelques années. Alors, moi, je jouais Alliance depuis le début et j'ai jamais lâché Alliance malgré les tentatives de me faire passer du côté obscur par les camarades. Mais non, non. Et après, une fois que le personnage est créé, qu'on a choisi tout ça, sa faction, sa race, sa classe, on se lance dans l'univers et c'est parti. Et en fait, il y a presque deux jeux en un. Enfin, il y a même plusieurs jeux en un, en fait. C'est ça qui est très intéressant avec vous. C'est que la première partie du jeu, ça va être de monter le niveau de son personnage.
Oui.
Donc actuellement, le niveau max, ça va être 60.
Ça fait déjà pas mal d'années que c'est 60 le
Alors,
niveau max, non?
Alors, en fait, il était monté beaucoup trop haut. Il était monté jusqu'à 120, je crois. Et il y a quelques temps, ils ont décidé que c'était devenu un peu n'importe quoi sur les statistiques, sur les dégâts, sur les niveaux et tout ça. Ils ont tout renivelé vers le niveau 60.
D'accord.
Il y a une espèce de petit reset, en fait, pour remettre tout le monde au...
Oui, qu'il n'y ait pas des personnages surpuissants par rapport
à... Ah, parce que c'était devenu très, très pénible, en fait, à devoir tout refaire depuis le début quand on crée un nouveau personnage. Donc maintenant, c'est de nouveau 60.
D'accord.
Ça l'était au début, ça l'est de nouveau. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on est arrivé au niveau 60, il y a un deuxième jeu qui s'offre à nous, en fait, quasiment. C'est-à-dire que on a accès à beaucoup plus de contenu une fois qu'on est arrivé au niveau maximum. Et c'est là où on va commencer à chercher, à trouver de l'équipement, du meilleur équipement, à battre des... à battre des donjons qui étaient infaisables jusqu'à présent, à monter des groupes pour aller faire ce qu'on appelle des raids,
qui sont
beaucoup de joueurs. Donc du coup, où là, il y a une marge de progression qui est énorme. En fait, entre il y a être niveau 60 et être niveau 60, quoi.
Ah voilà, oui, tout est dans le ton, ça s'entend.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais je vois l'idée, oui, effectivement, atteindre le niveau 60, t'ouvre la porte.
Voilà, c'est...
Ça me fait penser à un système de jeu de rôle papier qui s'appelle Empire Galactique. Alors c'est un vieux jeu, mais où il faut énormément d'expérience. On a un grade au début, on commence tous grade 3 avec un certain nombre de compétences qui nous sont autorisées. Et après un certain nombre de compétences, on passe grade 4 avec des compétences très puissantes, sauf qu'il faut avoir fait 40, 50 parties minimum avant d'avoir atteint le grade 4 et de pouvoir utiliser ces compétences qui sont déjà sur notre fiche de personnage dès le début, hein, et qui nous font des clins d'œil en disant « Oh bah tiens, je pourrais me téléporter un jour, mais c'est vrai que c'est pas pour maintenant, quoi. » Donc oui, il y a une accessibilité à tout un tas de nouvelles choses une fois que tu es gradé, quoi.
Il y a une vraie idée de progression même après le niveau 60, parce qu'en fait il y a plein de choses à faire, quoi. Enfin, parce que là on parlait des classes, mais il y a aussi des professions. Chaque personnage peut choisir deux professions qui vont lui permettre de faire de l'artisanat, par exemple, ou de faire de la nourriture pour ses camarades, ou de l'alchimie, ou de fabriquer des armures, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est des choses qui se montent au fur et à mesure que le personnage augmente. On va avoir un système de réputation aussi pour chaque faction, enfin pas faction, mais chaque groupe, on va dire, qu'on rencontre dans le jeu, qui va permettre de débloquer des récompenses supplémentaires ou des bonus supplémentaires. Donc c'est ça peut être très long.
Oui, d'accord. Oui.
Et c'est très long, généralement, d'ailleurs. Et après, chaque extension va proposer du contenu spécifique, en fait, qui va, par exemple, là, dans l'extension qui vient de sortir, on doit choisir une congrégation. Je peux vous passer les détails scénaristiques. Mais en gros, ces congrégations-là nous fournissent du renom. Et il faut avoir le niveau maximum si on veut être un tant soit peu un peu optimisé, parce qu'il nous file des bonus et des trucs comme ça. Voilà. Et après, pour les amateurs, il y a des choses qui sont vraiment... Enfin, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs jeux dans le jeu, parce qu'il y a des gens qui, par exemple, s'en fichent d'avoir des armures optimisées, mais par contre vont faire des collections.
Et des collections de matériel ?
Alors, la plupart du temps, c'est de cosmétiques, parce qu'on peut... On peut modifier son apparence, en fait, pour faire le plus beau cosmétique, pour être le plus beau sur la place du marché, quoi.
Ouais.
Et on peut faire aussi des collections de ce qu'ils appellent des mascottes, donc c'est des espèces de petites bestioles qui nous suivent de partout, etc. Enfin, donc il y en a des centaines et des centaines et des centaines.
D'accord.
Et c'est pareil pour les montures. Il y a des centaines et des centaines de montures. Il y a des gens dont leur dada...
elle est bien placée, celle-là.
Leur dada, ça va être de collectionner des montures.
Très bien.
Voilà. Ils vont passer des heures à faire ça, en se fichant complètement dans les parts des donjons. Quoi.
Ça se comprend. Combien de jeux vidéo aujourd'hui qui ne sont pas du tout en ligne, hein, je pense à des jeux consoles, hein, te proposent de collectionner quelque chose au cours de ta partie, de ton expérience de jeu, et ça t'invite à refaire le jeu plusieurs fois pour réussir à collectionner tous les objets. Des jeux tout bêtes parfois. Enfin, Uncharted, par exemple, qui te propose de retrouver une quarantaine ou une cinquantaine de petits objets liés à l'histoire qui sont parsemés sur les maps au cours du scénario. Bon, bah ouais, si t'as envie de collectionner, effectivement, t'as tendance à refaire le jeu une fois, deux fois, trois fois pour toutes les avoir, quoi.
C'est exactement pareil.
Bien, Lise, je te propose que nous fassions un petit interlude musical et nous revenons tout de suite après un morceau de Woodkid qui s'appelle Horizon Battleground. C'est parti!
Thank you. voice says I'm worthless. I thought I would find the force from fighting, but if I win alone, I'm losing. I'm turning horizons into battlegrounds. Cannot walk ahead without your guidance. I'm turning horizons into battlegrounds. And every step I take without a sound. Can I hold on? Can I hold on to you? Can I hold on? Can I hold on to you? Can I hold on? Can I hold on to you? Can I hold on? Can I hold on to you?
Et voilà, c'était Woodkid avec Horizon Battleground. Alors, Lise, c'est toi qui as fait la sélection musicale aujourd'hui.
Ouais.
Pourquoi tu m'as amené cette chanson ?
Parce que je l'aime beaucoup.
C'est une excellente raison.
Non, j'adore Woodkid et pour le coup, son dernier album est vraiment excellent. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion.
C'était effectivement l'occasion. Alors, revenons un petit peu à World of Warcraft. Donc, quand on préparait cette émission, Lise, tu m'as confié que toi, c'était l'aspect communautaire qui te plaisait dans les MMORPG en général, et peut-être même un peu plus en particulier dans WoW. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Bah oui, parce qu'on parlait de système de jeu depuis tout à l'heure, mais en fait, effectivement, ce qu'on avait mis un peu de côté, c'est l'aspect massivement multijoueur, en fait. Et c'est là où les MMO prennent tout leur sens, c'est qu'en fait, on ne joue pas seul. Le jeu n'est absolument pas conçu pour être joué seul. Alors, on peut le faire tout seul dans son coin. La plupart des quêtes peuvent être faites tout seul. Mais une grosse partie du contenu est conçue pour être joué à plusieurs. Et donc, par exemple, l'activité de base, c'est le donjon. Et le donjon, il faut être 5.
Minimum pour pouvoir le faire.
Un tank, un support et 3 DPS.
Alors, un tank, on a dit que c'était le gars plutôt costaud.
Voilà, c'est ça. C'est le guerrier avec son bouclier qui va aller...
Ensuite, voilà. T'as dit un quoi ?
Un support. Un soigneur, de façon générale.
D'accord.
Parce qu'il faut bien soigner ses camarades quand ils marchent dans des flaques de lave. Je sais pas, il y a un exemple comme ça.
Ouais.
Des DPS, donc des attaquants, quoi. En gros, c'est ceux qui vont devoir faire du mal aux autres pour passer les donjons. Et donc, chaque donjon, en fait, il est constitué de tout un tas de trash, enfin ce qu'on appelle des trash, c'est-à-dire des ennemis un peu nuls mais qui font mal, qu'il faut tuer avant d'arriver au boss. Et y a un nombre variable de boss dans chaque donjon, ça peut aller de 3 à 5, mettons, je sais pas.
D'accord.
Et on finit le donjon quand on a tué tous les boss du donjon.
Du fameux donjon.
Voilà. Et ça peut prendre entre une demi-heure et une heure en fonction de l'efficacité de son groupe. Et donc évidemment, plus on monte en niveau et plus c'est difficile. Donc ça, c'est vraiment un des contenus de base, c'est du donjon, quoi. Le deuxième activité en groupe, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle le raid. Et là, c'est le même principe qu'un donjon, mais en plus gros. C'est-à-dire que là, par exemple, le raid qui est actuellement dans l'extension qui vient de sortir, elle a 10 boss. Et on peut y aller. Les formats de raid, c'est de 10 joueurs à 25 joueurs.
D'accord.
Sachant que là, ça fait quelques années que WoW a supprimé il y avait des formats encore plus balèzes qui étaient à 40 joueurs.
Et ça n'existe plus, alors, les gros formats.
40 joueurs, non, mais ça peut aller jusqu'à 25.
25, ça fait déjà pas mal.
Ça fait déjà pas mal. Et puis même à 10, quand coordonner 10 joueurs sur un raid, c'est quand même pas fastoche. Parce qu'évidemment, chaque boss a des stratégies bien établies. Voilà, et il faut que tout le monde joue le jeu, donc... Si on dit à gauche, il faut aller à gauche, si on dit à droite, esquiver les machins, enfin bref. Et ça peut être vite compliqué, et c'est pour ça que ces contenus, généralement, les gens alors peuvent les faire en solo, en rejoignant des groupes qui sont créés en jeu, les gens y vont, ils font leur truc, personne ne se parle, etc. Mais y a pas mal de gens qui rejoignent du coup des guildes pour faire ce contenu ensemble.
D'accord. Alors, la guilde, moi, c'est un terme qui me parle bien, puisque je fais du jeu de rôle et puis du jeu vidéo depuis 25 ans. Mais alors, est-ce qu'on pourrait définir une guilde de WoW? Qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas?
Une guilde de WoW, c'est simple. C'est un groupe de joueurs qui vont rejoindre, du coup, cette structure-là, donc qui est prévue par le jeu. Il y a toute une interface et des fonctionnalités de guilde. Quelqu'un crée une guilde, il invite les gens avec tout un tas de grades. Le chef de guilde, les officiers... les VIP, les trucs comme ça, et avec tout un tas de droits. Donc on a tout un tas d'infrastructures liées à la guilde. Par exemple, on a une banque commune où on peut mettre la nourriture, les composants d'artisanat, s'il y en a qu'on a en rab et qu'ils veulent enfiler à leurs copains, ou des trucs comme ça. Tout un tas de petits bonus comme ça, et un système de chat de discussion qui est réservé aux gens de la guilde pour pouvoir... quelqu'un va dire « Ouais, je vais aller faire un donjon, j'aurais besoin de ça, ça et ça, et on y va, c'est parti. » Donc du coup, sur nos personnages, on a notre nom qui est au-dessus de notre tête et notre guilde. Alors on est flagué comme étant de telle ou telle guilde.
Et alors, il y a des guerres de guildes dans WoW?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non. Alors, il y a des guerres de guildes, on va dire, entre guillemets.
Oui, parce qu'il y en a qui doivent se concurrencer quand même.
Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'à chaque fois que je sors une nouvelle extension avec un nouveau raid, par exemple, il y a la course mondiale à la guilde qui va tomber le raid le plus vite possible,
bien sûr.
Et là, on est hors de notre niveau complètement. C'est des gens qui font ça de façon professionnelle même, ou presque.
Ouais.
Et qui sont pas, ils jouent encore pas au même jeu que nous, quoi.
Enfin, oui. Et puis, de toute façon, un joueur qui joue depuis 10, 12, 15 ans en jeu-là, un avantage entre guillemets, dans le sens où, il a déjà pu visiter pas mal de guildes, il a pu même peut-être fonder la sienne, je sais pas si c'est possible, mais il aura pu se créer une expérience de jeu avec le personnage et le matériel qui va, et pour pouvoir faire les choses assez vite. Et j'imagine qu'effectivement, là, quand il y a des nouveaux raids qui sortent, il y a des récompenses pour les premiers qui le réussissent, supplémentaires, je veux dire.
Il y a des titres. Enfin, c'est ce qu'on appelle des titres. On peut aller flex avec ces titres et ces succès, parce que le jeu a un système de succès comme beaucoup de jeux maintenant d'ailleurs. Et effectivement, c'est quand on voit quelqu'un avec son titre de je sais pas quoi, grand champion bidule, on se dit ouh, dis donc. Mais c'est surtout pour la gloire, quoi. Enfin, je veux dire, les gens font ça aussi pour. Parce que ça en jette.
Oui, mais pour prendre les trophées qu'on trouve sur PlayStation, c'est la même chose. Hein. Quand j'ai joué Skyrim, j'ai eu le trophée de platine, et tu vois, je le dis à la radio pour me la péter un peu. Il fallait 400 heures de jeu pour réussir à avoir le trophée. Il a fallu faire deux parties pour réussir à avoir tous les trophées secondaires, etc. Mais après, c'est le seul jeu où je suis allé jusqu'au trophée de platine, moi, de mon côté. Il y a trop de choses à faire maintenant. Il faut trop poncer les jeux pour réussir à avoir ce genre de titre-là sur console, en tout cas. Mais oui, je veux bien croire qu'effectivement, sur WoW, avec la communauté qu'il peut y avoir, se balader avec un titre au-dessus de la tête en plus de son nom et de sa guilde, c'est lui qui a fait le raid la semaine dernière, le premier, dis donc.
Ouais. Non, mais c'est très rigolo de voir les gens, quand il y a des nouvelles montures qui sortent et qui sont débloquables que si on a fait des donjons à un certain niveau, etc., etc., on les voit tous courir après ces succès-là, et puis après, aller frimer dans les capitales avec leurs montures qui tuent. Ils font rien de particulier, ils sont là, juste ils se montrent, et puis il y a tous les gens qui se massent autour en disant « Wow, la belle monture !» Non mais littéralement, il faut vraiment s'imaginer que c'est comme dans la vraie vie, les gens font pareil.
Mais on comprend bien que c'est un univers parallèle, je mets des gros guillemets à tout ce que je dis, mais on comprend bien que c'est un univers parallèle où on peut effectivement développer toute une vie sociale et toute une vie matérielle finalement autour de son personnage. Mais dans le jeu, voilà.
C'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu faire quand on a créé la guilde avec deux de mes amis. C'était de faire une guilde à l'ancienne, parce que faut voir que le jeu a beaucoup évolué aussi dans sa population, entre guillemets. Et qu'il y en a maintenant où c'est plus des usines. Les guildes sont plus là pour faire des usines où il faut le maximum de gens pour faire le maximum de trucs, etc. Et c'est pour ça que chaque guilde a son identité, entre guillemets. Parce que moi, à l'époque où j'ai commencé à jouer, j'avais créé une petite guilde où c'était très familial et communautaire, et on s'entraidait à faire des trucs. On n'était pas très bons. Moi, j'ai jamais été très bonne au jeu, mais pas incroyable non plus. Mais on se défend quand même, quoi. Mais où c'est vraiment cet aspect, justement communautaire, moi, qui m'intéressait, c'était de développer une guilde communautaire. Alors où on n'est pas forcément des milliers ou des centaines dans la guilde, enfin pas des milliers, j'exagère, mais où on est quelques dizaines, mais où je connais tous les gens qui sont dans la guilde, je les ai recrutés. Pas personnellement, mais presque.
Oui, c'est très familial.
Voilà, c'est très familial parce que je privilégie la la qualité humaine des joueurs qui sont derrière plutôt que la quantité. Et il y a des choses que voilà.
Tu connais les joueurs qui sont derrière, donc voilà. c'est encore une autre démarche. T'es pas derrière juste un pseudonyme et un avatar d'un jeu, quoi.
Bah oui, mais ça nous arrive très régulièrement en ce moment, enfin, de finir des donjons et puis après de rester à papoter d'une chose et d'autre. Là, on a recruté une bande de Belges il n'y a pas longtemps, là. Coucou les copains. La dernière fois, ils sont partis sur des discussions des meilleures bières belges. La sélection du coin, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, on parle d'autre chose aussi.
Alors justement, je vois, tu me dis, on parle de ci, on fait ça. Enfin, il y a des choses qui sont parfaitement liées au jeu et à son activité dite ludique, mais il y a aussi tout un tas de choses effectivement qui sont extérieures, qui se passent quand même d'en haut, entre autres les conversations. Longtemps, on a dit que le MMO, enfin, ça a été diabolisé pendant des années. On disait c'est chronophage, mais c'est pourtant aujourd'hui une vraie activité ludique reconnue. Tu me disais quand on préparait l'émission, ce serait bien que on puisse, sans vouloir forcément valoriser la chose, juste montrer que il n'y a pas besoin de redorer un blason puisque il est toujours doré, quoi. Enfin, c'est une vraie activité ludique. Qu'est-ce que tu réponds, toi, aux gens qui ont diabolisé le MMORPG et en particulier WoW, puisqu'il a quand même été la cible principale de pas mal d'attaques pendant pas mal d'années? Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à tous ces gens qui te disent c'est mauvais pour ta santé de jouer à WoW, quoi?
J'ai envie de dire que ça peut être mauvais pour la santé, dans un sens où ça peut être mauvais pour la santé d'aller, parce que on en parlait hier, d'aller faire trop de vélo ou trop de tennis. C'est là où c'est mauvais, c'est dans l'abus. Par contre, à côté de ça, ça développe, enfin, il y a une vraie vie sociale, effectivement, comme tu disais, qui se développe autour de ça. Et moi, je me suis fait... Enfin, c'est pas la première fois que je me fais des amis via les jeux vidéo en ligne. Et des vrais amis, hein, après, où on passe un stade de... Un cap où vraiment, après, ça... Enfin, ouais, on développe une vraie amitié. Parce que c'est quand même des vraies personnes derrière leur écran, en fait, hein, avec qui on accroche plus ou moins. Et surtout, ça développe aussi tout un tas de compétences. Parce que... Quand on est chef de guilde, ça veut dire qu'on a des dizaines de personnes à gérer derrière. Donc, il faut aussi faire un peu de travail de relations humaines, d'organisation, parce qu'il faut arriver à synchroniser tous les calendriers des gens si on veut aller faire un raid. Et dans le raid, il y a des gens qui vont, ce qu'on appelle raid lead, parce qu'il faut quand même donner les indications en jeu à tous ces gens qui jouent en même temps. Et donc, des compétences aussi de communication, de leadership.
Il y a des vraies responsabilités d'organisateur.
Et ça développe vraiment des vraies compétences, en fait, de tout un tas de trucs.
On commence seulement à le dire depuis quelques années que le jeu vidéo, lui qui a été diabolisé pendant 30 ans, quelle que soit la forme de jeu vidéo, permettait de développer effectivement des compétences. Enfin, moi j'ai entendu dire que ça pouvait développer les réflexes dans certains cas. Oui, effectivement, si tu fais du jonglage toute ton enfance, tu auras les réflexes bien développés. Voilà. C'est vrai que ce côté, alors c'est chronophage comme tout un tas d'activités, ça, effectivement, quand on commence à jouer, les parties peuvent, enfin, on peut jouer le temps qu'on veut, à part quand on se lance dans un donjon ou dans un raid, finalement, où là, on est obligé de rester dans le donjon jusqu'à la fin si on veut le terminer. Donc, tu disais, ça se fait en une demi-heure, une heure, bon, j'imagine que parfois ça peut être un peu plus long, mais en vrai, c'est comme toute activité, il suffit de se la timer, en fait, de se réserver un temps. Depuis 2 ans, on admet qu'il y a une addiction aux jeux vidéo. Ça n'a jamais été le cas avant. C'est l'État français qui a décidé un jour, enfin, qui a décidé. Ils n'ont pas sorti ça du chapeau, mais à un moment, ils ont dit il y a addiction aux jeux vidéo, mais il y a addiction que pour les personnes à risque. Du coup, une personne à risque, elle peut être addict à n'importe quel autre type d'activité. Si elle tombe sous le joug du jeu vidéo, évidemment que ce sera le jeu vidéo son addiction. Mais l'exemple qu'on prenait en préparant l'émission, on disait jouer 17 heures par jour aux jeux vidéo, c'est complètement déraisonnable. Et c'est une addiction. Mais finalement, quelqu'un qui va faire du sport pendant 17 heures par jour, il est aussi sous une forme d'addiction, sauf que on lui reprochera peut-être pas de la même façon parce que lui, il sera allé faire du sport et pas rester connecté devant un écran. Donc il y a aussi une image technologique qui un changement de génération et de mode de communication. On a aussi longtemps dit les jeux vidéo, ça isole, même les jeux en ligne. Bien la preuve que non. Tu es là pour nous parler aujourd'hui de l'aspect communautaire des MMORPG. C'est bien que ça n'isole pas, mais c'est vrai que on n'a pas forcément des amis physiques présents dans la pièce. Mm-hmm. La plupart du temps, on n'a pas d'amis présents physiquement dans la pièce, mais ça n'empêche pas d'avoir quand même un vrai contact, un vrai lien social. C'est d'autant plus intéressant en ce moment où on peut pas, on peut On est confiné et on peut pas rencontrer des gens comme on en a envie. C'est difficile de nouer des liens, des contacts ou de faire des nouvelles rencontres en ce moment parce que on peut plus faire de parties de jeux, de quoi que ce soit en public ou avec du public. Donc oui, c'est aussi une belle forme de faire les choses. Enfin, moi j'ai commencé un jeu qui joue un petit peu en ligne dernièrement. J'ai attaqué Death Stranding sur PlayStation 4 et effectivement il y a une partie du jeu qui est un peu coopérative, en repérant des endroits qui sont difficilement accessibles. On a une grande map, on est tout le temps à pied, on doit se balader sur cette map pour faire des livraisons. Eh bien oui, elle est volontairement escarpée, donc on va installer des cordes et des échelles à des endroits et on peut les signaler pour d'autres joueurs s'ils passent par le même chemin. Et mieux que ça, on est chargé de livrer des colis, mais on peut trouver des colis abandonnés sur la route et on peut soit aller les livrer nous-mêmes, soit les mettre dans des boîtes pour les confier à d'autres joueurs qui viendront les récupérer quand ils le souhaiteront, pour que ce soit eux qui aillent les livrer. Donc, alors après, il y a certainement tout un système de chat que j'ai pas développé, que je suis pas allé voir. Mais rien que sur le jeu, basiquement, je viens juste de le démarrer, j'ai juste testé, je suis à 2-3 heures de jeu seulement. Mais on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent être possibles. Effectivement, une fois connecté, une fois la partie vraiment en ligne, on voit déjà que sans avoir créé le compte pour pouvoir jouer en ligne, on a déjà tous ces repères-là qui sont nécessaires et qui sont possibles à faire. Bon, bah oui, il y a quelque chose. Enfin, demain, il y a un joueur qui va me répondre sur la partie en disant, bah tiens, j'ai pris tes colis. Au-delà du côté fun de la chose, on peut comprendre qu'un jeu qui va développer plus l'aspect social. Alors, je parle pas d'un jeu multijoueur, je parle vraiment d'un MMO à la manière de WoW, où effectivement, votre personnage, vous pouvez décider de l'emmener dans une taverne, finalement, de lui faire commander des boissons à manger, ce qu'on veut, ou d'acheter des objets, et discuter avec d'autres gens présents, qu'ils soient clients ou vendeurs. Et c'est quelque chose de formidable. Et je pense qu'il n'y a pas la barrière de la réalité où tu serais vraiment dans une échoppe comme ça en train de commander une bière. Tu discuterais peut-être pas avec les gens autour de toi. Alors que sur le jeu virtuel, tu vas te le permettre parce que tu as pas... Il y a une frontière de timidité qui passe plus facilement. Il n'y a pas la barrière de « il me regarde, je le regarde, il me regarde méchamment ». Non. il joue un orc, mais c'est pas grave, je vais lui parler quand même. Voilà.
Non, mais en plus, c'est assez incroyable de voir que spontanément, dans la majorité des cas, c'est pas tout le temps le cas, pas non plus être angélique, mais dans la majorité des cas, les gens vont s'entraider sans raison particulière. Même pas parce que ils vont être récompensés derrière parce qu'ils ont aidé, mais parce que ils voient quelqu'un en difficulté, ils vont aller l'aider.
Ouais, mais la raison finalement, c'est la passion du jeu, je pense. C'est-à-dire qu'on est deux à jouer au même jeu. T'as une galère que moi j'ai connue, si je peux t'aider, je vais t'aider. Tous les joueurs de WoW sont pas des gens altruistes, bien évidemment, mais on peut effectivement imaginer que ça se passe très bien.
Ouais, spontanément, les gens peuvent se filer des coups de main sans qu'il y ait besoin de, et puis même des petits moments de grâce, moi, ce que j'appelle dans ce genre de truc où, ça m'est arrivé il y a quelques jours, je me baladais dans ma congrégation et j'ai vu un orc qui avait une belle armure et tout ça. Je me suis arrêtée devant lui pour faire « Wow, quelle est belle ton armure !» parce que moi, j'aime m'émerveiller devant les gens. Et du coup, il a vu que je le regardais et du coup, on s'est regardé. Puis on a fini par courir en sortant des jouets arc-en-ciel dans toute la congrégation avant qu'il parte faire ses trucs. Mais il y avait des petits moments de sociabilité, qui dure quelques secondes, quelques minutes, de choses comme ça, où en fait, même sans pouvoir se parler, parce que là c'était quelqu'un de la horde, donc je pouvais même pas lui parler, il y avait des petits moments comme ça,
Tu peux pas du tout rentrer en contact, toi, en tant que membre de l'Alliance, avec un membre de la Horde.
Non, on parle pas la même langue, donc on peut pas se parler. C'est littéralement comme ça, quand on essaie de se parler.
Il y a pas des personnages qui sont là pour faire les traducteurs.
Non,
c'est pas possible. En fait, cette scission-là, quand même, c'est effectivement, c'est plus que choisir son camp.
Et puis historiquement, là, c'est un peu tassé avec le temps, mais historiquement, alors il y avait même des serveurs à l'époque qui étaient joueurs contre joueurs, c'est-à-dire qu'on croisait quelqu'un de la Horde, on pouvait lui péter la bouche. Et c'est généralement ce qui se passait. Là, ça s'est un peu atténué, mais là, c'est des ennemis, quoi. Généralement, quand tu croises des hordeux et que t'as ton mode de joueur contre joueur qui est activé, ça va se friter, Et puis, il y a des gens qui adorent ça. Mais non, ils ont tout lissé, c'est un peu plus compliqué le système, mais il y a vraiment cette rivalité qui existe depuis toujours, sur le... Vraiment, la tête de mon copain quand il a découvert le t-shirt Alliance dans mon placard la première fois, parce que lui joue Horde normalement depuis deux.
Aïe!
Il a failli avoir rupture.
Je te propose, Liz, qu'on fasse un deuxième interlude musical. Tu nous as amené un morceau de la bande originale de World of Warcraft. C'était l'occasion. C'est parti!
Beware, beware, the daughter of the sea. Beware, I heard him cry. His words carried upon the ocean breeze as he sank beneath the tide. Those blood-soaked shores of Kalimdor, where sailors fought and died, the admiral fell at their amour because she left his side.
Why this, O daughter of the sea? Why this, did she forget her seaside day? Always the pride of our nation's eyes. How could she go astray?
When she did flee across the ocean deep, the admiral followed west. What else but sail to save a daughter's life and pray she still drew breath. But there he found upon those distant shores enemies on the rise. But when he faced those savage foes, his daughter stood aside and buried deep beneath the waves, betrayed by family to his nation with his last breath cried. Beware the daughter of the
Et voilà, c'était un morceau de la bande originale de World of Warcraft. Alors, je t'aurais bien demandé pourquoi tu me l'as amené, mais ça paraît évident aujourd'hui qu'on écoute un petit peu de BO de WoW. Alors, on a presque terminé cette émission, mais si tu devais, je sens la question piège, auto-piège pour moi, oui. Si tu devais conseiller un jeu MMORPG à un débutant aujourd'hui, tu lui conseillerais quoi ? T'as le droit de répondre WoW, mais c'est un peu facile, hein.
Bah, ouais, mais c'est le choix facile. Puis c'est surtout que c'est celui auquel j'ai le plus joué. Donc, forcément, allez, on va dire que, par exemple, pour des plus petits, des adolescents, des choses comme ça, je peux vous conseiller un petit jeu franco-français qui s'appelle Dofus, dont je suis sûre que tu as déjà entendu parler.
Bien sûr, oui.
Et qui est extrêmement mignon.
Qui existe aussi depuis très longtemps.
Qui existe depuis très longemps. Pareil, 2004, d'après mes notes.
Je crois même qu'il y a des dessins animés, des magazines qui lui sont complètement dédiés, oui.
L'univers a été pas mal étendu aussi. Et qui est très choupi. Et pour des plus jeunes, ça peut être très sympa aussi. Bon, évidemment, avec contrôle. Enfin, voilà, je.
Oui, bien sûr. Moi, je fais pas mal d'actions de prévention sur l'addiction aux écrans et sur l'utilisation des écrans de manière générale. Moi, j'interviens comme ça dans des écoles primaires, des collèges, des lycées. Oui, il y a 2-3 règles à respecter selon l'âge de l'enfant par rapport au temps, en fait, hein, où on met à disposition un écran, que ce soit pour faire un jeu ou pour que ce soit pour faire autre chose. Mais au-delà de ça, oui, encore une fois, c'est la première chose qu'on se dit. C'est quand même, faut faire attention parce que c'est chronophage.
Ouais, et puis surtout, on ne faut pas oublier qu'on est dans un jeu avec d'autres gens. Et aussi, il y a l'aspect où il faut quand même vérifier que
pour les enfants,
pour les plus jeunes,
effectivement,
voilà, c'est que on sait jamais à qui on parle. Et c'est pas forcément de se méfier de tout le monde, mais au moins d'être vigilant sur.
Pour les enfants, il faut des accords parentaux. Enfin, il faut jouer avec un adulte, c'est toujours mieux. Mais d'ailleurs, tu nous disais, toi, ta guilde, c'est que c'est que des gens que tu connais finalement. Mais c'est pas
maintenant.
Une, c'est pas maintenant.
Que
oui, c'est une, juste une volonté pour jouer. C'est pas une, le jeu à un moment qui t'a, où tu t'es dit, bah, c'est nul avec les autres, je vais jouer qu'avec des gens que je connais.
Là, à la base, je l'ai monté avec des gens que je connaissais. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai recruté des gens que je connaissais pas du coup et qui maintenant je connais parce qu'à force de se parler etc.
Bien sûr.
Mais moi je suis un peu psychopathe sur ce genre de recrutement, c'est-à-dire que je quand je recrute quelqu'un, je lui parle toujours en vocal avant.
D'accord.
Je lui fais passer un espèce de attends, je mets des guillemets entretien entre guillemets pour voir si au moins c'est des c'est ça a l'air d'être des gens normaux. Et je non mais tu peux pas savoir ce que j'ai rencontré des fois, enfin bref. Et que je pose tout de suite les règles en disant on est comme si on est comme ça, pas d'insultes, pas de machin, pas
ouais,
de
ouais,
trucs,
ouais,
pas
sûr,
de sexisme, pas de racisme, pas d'homophobie, bon, bref. Et que c'est un motif de bannissement express de la guilde parce qu'il est hors de question et j'en ai banni des gens comme ça hein que qui, depuis 10 minutes, ils étaient arrivés, ils étaient en train d'insulter tout le monde et ils m'ont balancé des noms d'oiseaux que je
mais il faut modérer, enfin, faut avoir un modérateur.
C'est un vrai travail de modération après, à côté. Mais à côté de ça, on fait des rencontres absolument incroyables et même sans se parler en vocal. Hein, parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé à jouer le tout début de WoW, on n'avait pas tout ça, c'est les Discord, les machins, les trucs comme ça.
Bien sûr.
TeamSpeak, ça coûtait de l'argent pour ouvrir un serveur. On n'avait pas forcément les casques et les micros qui allaient bien.
Bien sûr, oui, que maintenant tout ça, voilà, ça s'est quand même pas mal démocratisé.
Exactement.
Et puis les coûts ont bien baissé.
Et ça ne nous avait pas empêché d'avoir des vraies rencontres et des vraies connaissances parce qu'on s'écrivait, on s'envoyait des messages, on discutait dans le chat de guild. Moi, il y a une anecdote que j'adore, en particulier pour montrer l'influence que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un. Quand on avait monté notre première guild avec mon frère à l'époque, il était tout jeune lui, hein, il devait être au collège ou quelque chose comme ça, et il avait des très gros problèmes en orthographe. Et dans la guild, on avait recruté une nana qui devait avoir la quarantaine, parisienne, ingénieur en aéronautique, je crois, quelque chose comme ça. Et je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé. Il y a une espèce de coup de foudre amical qui s'est fait entre cette nana et mon frère. Et ils s'adoraient, mais vraiment ils s'adoraient. Et elle arrêtait pas de lui dire, franchement, sans tâte en orthographe, ça craint et tout. Et il avait commencé à travailler son orthographe pour lui faire plaisir. Et pour lui faire plaisir, puis qu'au fil des mois, il lui a dit, waouh, c'est super, tu t'es amélioré, machin, et tout ça. Et c'est comme ça que mon frère s'est amélioré en orthographe, parce qu'il voulait faire plaisir à cette nana, qu'on connaissait qu'à travers le jeu, hein.
Ouais, bien sûr. Ouais,
et, et elle lui avait conseillé des films, des séries, des choses comme ça. Elle avait appelé un de ses, elle jouait chasseur. Elle avait appelé un de ses familiers, Soleil Vert, pour faire peur aux vieux. C'était son explication. Et donc, du coup, mon frère avait regardé le film pour comprendre la référence et tout ça. Mais vraiment, ça avait eu un impact positif sur sa vie, entre guillemets, parce que du coup, il était devenu meilleur en orthographe grâce à moi. Mais voilà, c'est ça qui est incroyable aussi, c'est qu'en fait, on part ensemble pour jouer au même jeu et puis on finit par développer des compétences, des amitiés. Pour des mauvaises expériences.
C'est des rapports sociaux comme
c'est
les autres.
C'est des vrais rapports sociaux.
Et effectivement, ça peut aboutir sur des amitiés ou parfois peut-être même plus. Dernière question,
oui.
Lise. Si je veux des infos sur les MMO ou sur WoW en général peut-être, pas vers qui je me tourne, mais où est-ce que je vais trouver ça sur Internet?
De façon générale, sur les sites des éditeurs des jeux.
Ouais.
Hein, pour avoir un aperçu un peu plus détaillé de tout ça,
ouais.
Parce que là on a fait que effleurer la surface.
Bien sûr.
Parce que comme chaque jeu a un système de classe généralement assez poussé, ben par exemple on peut aller sur le site de WoW si on veut avoir une idée de ce que font telle ou telle classe ou telle race, etc. Il y a pas mal de forums de discussion qui en parlent, des sites d'information, des choses comme ça. Il faut pas hésiter à aller farfouiner un peu, voir. Et puis généralement maintenant tous les systèmes, tous les MMO proposent des essais gratuits.
Oui. Oui, c'est
voilà,
vrai. Effectivement, si vous voulez vous lancer, le côté essai gratuit, c'est pas mal, parce que vous allez avoir soit un certain nombre de temps, soit un certain nombre de semaines. Enfin, bref, généralement, c'est délimité comme ça. J'ai un premier mois gratuit ou quelque chose comme ça. Et ça permet effectivement de passer les tout premiers niveaux et de voir si vous adhérez à l'univers, au système de jeu, aux mécaniques de jeu qui sont associées. Et puis ensuite, aux gens que vous allez rencontrer, si effectivement, il y a des bons feelings. On peut partir faire l'aventure avec d'autres personnes.
C'est ça.
Et ensuite, s'abonner parce que ça, on en a pas parlé, mais WoW, alors, c'est un coût.
Alors, par contre, c'est comme tout, hein, c'est un service, ça se paye.
Bien sûr, non, mais bien sûr.
Donc, du coup, c'est encore un système à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on est sur un système d'abonnement, en fait, mensuel. Donc là, c'est, je crois, à la louche, ça doit être 12-13 euros en fonction de son système d'abonnement par mois, hein.
Ouais.
Mais après, par contre, c'est vrai que c'est un, bah voilà, c'est plus vraiment un système qui est utilisé, enfin, ça pousse trop la cote, quoi. C'était
c'est ce que
la
j'allais dire.
À un moment
voilà,
donné,
c'est,
mais
c'est d'une certaine manière, c'est passé de mode.
Voilà.
Mais ce qui n'empêche pas, enfin, il y a eu d'autres essais de MMO, voire même d'autres MMO avant. Enfin, il y a eu déjà des jeux en ligne. Moi, je pense à DAC. C'était Dark Age of Camelot.
Oui, tout à fait.
Qui était sorti bien avant, enfin, quelques années avant World of Warcraft. Les serveurs ont fermé il y a quelques années, mais ils étaient déjà vides depuis au moins aussi longtemps. Enfin, c'est des jeux qui ont fonctionné le temps où ils sont sortis, ça a tourné quelques années, puis après, ben, il y a eu plus personne qui s'y connectait. On voit bien que c'est absolument pas le cas de WoW. Enfin.
Voilà, même s'il y a moins de joueurs qu'à une époque, il y en a quand même pas mal encore. Et donc voilà, ça a quand même un petit coup, mais de toute façon, comme tout, hein, tout se paye. Hein. Enfin, j'ai envie de dire, quand on achète un jeu vidéo,
ouais,
c'est
quand on achète, pas. Exactement. Qu'on l'achète neuf ou d'occasion, on paye un coup. Voilà, si on a une PlayStation et si on a une console et qu'on est abonné au service de jeux en ligne, on paye aussi. Enfin, c'est.
Oui, bien sûr.
À un moment, le jeu vidéo est pas gratuit non plus, mais le jeu de plateau non plus, le jeu de rôle non plus. Faut bien acheter les livres. Hein, donc bon, c'est le principe. Eh bien, merci, Élise, pour ton intervention.
Avec plaisir.
Je reviens vers toi dans un instant. Alors, malheureusement, comme tous les mois, pas de programme des animations à venir. On en reparle le mois prochain, peut-être qu'on y verra un petit peu plus clair. Alors, je vous le dis tous les mois, mais je vous le répète quand même, je ne saurais que trop vous conseiller de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. Dès qu'on pourra refaire des animations publiques, bien évidemment, nous nous empresserons de vous le dire sur les 10 réseaux. Mais malgré tout, on continue quand même à avoir une activité sur nos réseaux, sur notre site internet. On vous propose des jeux toutes les semaines, à la manière de notre partie de Shabadabada du lundi, mais et puis des infos les autres jours. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, toujours sous le nom de Conservatoire du Jeu. Et bien voilà, notre émission se termine. Lise, merci d'avoir été mon invité pour cette 26e émission de À quoi qu'on joue. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin ?
Le mot pour la fin, ça va être pour mes camarades de guilde, hein, les rayons magiques à fond.
Voilà. Alors, les rayons...
Continuez à être beaux et merveilleux.
Les rayons magiques, vous êtes beaux, vous êtes merveilleux. Merci à vous. Merci, Élise.
Avec plaisir.
Vous pourrez retrouver toutes nos émissions sur le podcast de Bac FM, mais aussi sur la chaîne YouTube du Conservatoire du Jeu. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Je vous dis au mois prochain et en attendant, soyez ludiques.